Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
Jean-Christophe Drouet.
10h08, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Nous sommes toujours en direct de l'Alpe d'Huez pour les RMC Sport Games. Merci à tous de votre fidélité. Sachez que si vous avez raté la première heure, nous avons évoqué le Paris Saint-Germain, la vente du Parc des Princes à Hidalgo. Maire de Paris, dans les colonnes du Parisien, annonce que c'est ferme et définitif. Le PSG et surtout le Parc des Princes ne sera pas vendu. Si vous voulez aller réécouter ce débat, n'hésitez pas à aller nous écouter en podcast. Toujours avec Christophe Cessieux, Denis Charvet, Sarah Pitkowski, Marie Martin et Sébastien Amier, notre champion de ski, vice-champion olympique de slalom, est avec nous. Salut Bastoun.
Salut à tous.
Hello.
Salut les grandes gueules.
Ça va bien ?
Ravi d'être avec vous. Eh ben, ça va super bien.
Hein. Et nous aussi, tu
on
nous
est à la neige.
Des montagnes.
Eh ben ouais, c'est ça le bonheur de se déplacer. On fait déplacer aussi à la montagne tout le monde parisien, tout le gratin parisien.
Et ça, c'est le gratin parisien carrément. Il y a joué du charbon dans le gratin parisien.
C'est vrai. Mais vous le suivez un petit peu de près quand même.
Dans quelques instants, ça tombe bien que tu sois avec nous. Bon, c'est un peu prévu, hein, forcément, cette émission est pilotée de tout là-haut, hein, de Washington DC. On va parler de ski alpin avec la saison très moyenne pour le moment de nos skieurs français. Le ski alpin tricolore est-il en crise ? 10h30, un homme heureux, les leaders du cyclisme français vont viser le général sur le Tour de France et ça, évidemment, ça met beaucoup en joie notre Pierre Amiche. Et puis 11h, c'est le retour en grâce de Novak Djokovic en Australie. Un an après avoir été chassé Manu Militari du territoire, reportage sur l'accueil magnifique réservé à la star serbe en Australie. Peut-il enfin être aimé ? Ce sera notre question. Notre jeu ce matin dans les grandes gueules du sport, forcément, on vous offre un séjour d'une semaine pour 4 personnes à la montagne, un séjour d'une valeur de 2 000 euros pour le remporter. Vous vous inscrivez, vous envoyez neige au 32-16, neige au 7-32-16. Comment on écrit neige, les copains? Je vais aller voir qui là. Denis Charvet.
N-E-I-G-E.
N-E-I-G-E. Bravo.
Tu réfléchis, hein.
32-16. Et en bonus, peut-être un massage thaïlandais organisé et orchestré par Christophe Cessieux. Voilà, ce sera notre cadeau bonus.
On m'avait pas dit ça.
Mais dis donc.
C'est toi qui fais les massages normalement.
Tu sais pas faire ?
Non. Pas à toi, je ferai pas de massage thaïlandais.
Bah, tu apprends tranquillement et puis on fera gagner ça à nos auditeurs, mais surtout un séjour à la montagne. Vous l'avez bien compris. On va débuter cette nouvelle heure pour faire aussi plaisir à Sarah Pitkowski avec cette citation de Pierre Mauroy qui a dit un jour : la crise n'est pas comme une maladie dont on ne peut en sortir, elle est comme une sorte de nouvelle naissance.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Il en met, c'est comme ça qu'il faut skier, c'est bien.
Oh, la faute intérieure ! La soupe à la grimace pour Alexis Pinturo !
Ouais, c'est pas une journée simple. Hein. Je fais une grosse erreur à la descente et du coup, qui me coûte cher. Je tente le tout pour le tout et puis le bilan, bah, il est ce qu'il est, il est mauvais. Hein.
Ça se passe bien, Clément, très bien entré. Allez. Ici, sur la porte la plus difficile du tracé.
Attention, on va ! C'est pas possible ! La sortie à quelques piquets de l'arrivée pour Clément Noël !
Maman ! Je crois que ça va être encore une année compliquée.
J'arrive à rectifier le tir, surtout en géant, je dirais, pour le début d'année prochaine.
On retrouve le style du champion olympique de Pékin.
Ouais,
Clément Noël.
Là, il prend tous les risques dans l'entrée, c'est parfait.
Il a enfourché la bleue. Deuxième abandon de course.
C'est pas possible.
On rappelle que dans 3 semaines, il y a les championnats du monde à Courchevel-Méribel. Il est important pour nos Français de prendre de la confiance parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de victoire depuis le début de la saison. Donc, même chaque place d'honneur est importante.
J'y crois.
Évidemment. Merci.
Le micro, s'il vous plaît.
Merci, Marie.
Pardon.
Oh, ça me fatigue. Je sais pas si c'est parce que c'est dimanche, que c'est une journée difficile ou si je suis de mauvaise humeur, mais ça m'a cassé les oreilles, là. À 3 semaines.
Elle sent la neige.
Oui, je ne vais pas aller plus loin. À 3 semaines des mondiaux de ski en France, les résultats de nos bleus inquiètent, vous l'aurez compris. Aucune victoire, quelques rares résultats encourageants et beaucoup de déceptions. Un an après les JO de Pékin, plutôt réussi avec 3 médailles, dont un premier titre olympique depuis 2006. Le ski alpin français est en train de rentrer tout doucement dans le rang. La musique qui fout les jetons et cette question. Le ski alpin français est-il en crise ? Oui ou non ? Christophe Cessieux ?
Non.
Marie Martineau ?
Oui.
Sarah Pitkowski.
Oh bah moi ça va être un non.
Denis Charvet.
Non.
Sébastien Ami.
Oui, non.
Non. C'est plutôt non. Ok, avant de débattre, on va retrouver la voix du ski sur RMC. C'est Arnaud Souk. Salut Arnaud.
Salut les amis.
Salut Arnaud.
C'est vrai que depuis le début de saison, nous cherchons nos champions.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de raisons de se réjouir, on va dire. Seulement 4 podiums depuis le début de la saison pour les Bleus, pour Roman Miradoli, Alexis Pinturo, Johan Claret et Clément Noël. Mais pas une seule victoire à se mettre sous la dent. Alors que l'an passé, au même moment de la saison, il y avait également 4 podiums, mais déjà 2 victoires, une pour Clément Noël, une pour Tessa Worley. Alors, si on se plonge un petit peu dans les archives récentes du ski alpin, faut quand même remonter pour trouver trace d'un tel bilan, c'est-à-dire pas de victoire pour l'instant au 15 janvier. Eh bien, il faut remonter à la saison 2014-2015. Donc, ça commence quand même à remonter. Après, ce qu'il faut dire, c'est que les skieurs français jouent souvent placés. Ils parviennent pas pour l'instant à passer la vitesse supérieure. Ce qui est sûr, c'est qu'un succès serait quand même un bon signal pour le ski tricolore à désormais 3 semaines des mondiaux. Même si on l'assure dans l'encadrement, aucune tension ni pression particulière ne se fait sentir chez les athlètes. Reste que la France régresse, c'est vrai, notamment dans sa discipline forte, le slalom géant, où la longue tradition des succès chez les filles comme chez les garçons semble s'être brisée cette saison. Il n'y a pas eu un seul podium dans la discipline pour les Bleus. Autre énorme point d'interrogation, le niveau de Clément Noël en slalom, car si le champion olympique a terminé 3e à Garmisch-Partenkirchen il y a 15 jours, il n'a terminé aucune des 3 autres courses qu'il a disputées cet hiver. On a envie de dire à toi Clément de lever l'inquiétude et l'incertitude aujourd'hui sur la piste du Lauberhorn pour le slalom de Wengen. C'est dans un petit quart d'heure que ça commence.
Exactement, dans un petit quart d'heure, et nous allons suivre ça en direct avec aussi le fils de Bastoun hein, qui est sur les pistes de Sébastien Amier. On va suivre ça avec Clément Noël et Alexis Pinturo dans quelques instants pour la première manche du slalom de Wengen. Le ski alpin français est-il en crise? Oui, non, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. J'ai un oui, c'est Marie Martineau, notre skieuse. Pourquoi oui?
Bon, alors c'est pas facile, hein, c'est ma famille quand même, et puis je veux pas du tout jeter la pierre sur les athlètes, mais Arnaud l'a très bien dit, si on fait le compte des podiums, c'est quand même c'est très faible, 4 petits podiums sur le début de saison, surtout si on le compare, et on est obligé de le faire avec les autres disciplines de cette belle fédération française de ski, où là on a des victoires, non pas des podiums, mais des victoires en Coupe du Monde, en ski freestyle big air chez les hommes, chez les femmes, en snowboard cross chez les hommes, chez les femmes, en ski freestyle snowboard cross chez les hommes, en biathlon chez les femmes, par équipe, en ski de fond chez les femmes, je continue, on a des podiums très réguliers, en ski de boss, ça pleut de médailles de partout, on a des belles équipes qui sont denses, qui, avec de la relève, tout ce qui fait qu'il n'y a pas de crise et qui est à mettre en perspective quand on regarde l'équipe de France de ski alpin. Moi je m'inquiète du peu de relève, parce que si on fait abstraction du fils de Bastoun, d'un Léo Anguenaud qui commence à, ils font leur entrée dans le grand bain des Coupes du Monde et ils sont très prometteurs, c'est quand même que 2 athlètes dans une discipline, 2 disciplines, le géant et le slalom, donc ça manque vraiment de densité. Chez les filles, il y en a beaucoup qui vont arrêter juste après les championnats du monde, c'est-à-dire là dans un mois. Si en tout cas elle n'est pas en crise, il est en passe de l'entrée dans cette crise, et ça commence à sentir sérieusement le mouflon.
Ok, Christophe Sessieux, tu dis
oui,
non.
Oui, alors je vois
acquiescer les propos de Marie.
Non, mais parce que effectivement il y a beaucoup de vérité dans ce qu'elle dit. On n'est pas en crise actuellement, mais on se dirige vers la crise, parce qu'effectivement la relève n'est pas là. Alors un Clément Noël, il a 25 ans, il est champion olympique, il fait un mauvais début de saison, mais je pense qu'il est capable sur sa classe d'en regagner d'autres. Pinturo, il reprend du poil de la bête après une saison qui a été difficile, mais lui il est plutôt vers la fin de carrière. Tessa Worley, elle est plutôt vers la fin de carrière, et effectivement la relève, tous ces grands noms qui à l'âge où on de nos jeunes skieurs actuels avait déjà remporté pas mal d'épreuves. Voilà. Donc, effectivement, on se dirige vers la crise. On n'y est pas encore, mais ça peut être inquiétant pour la suite. Après, cette année, je pense que Noël, que Worley, que Pinturo sont capables d'aller décrocher des victoires. Okay.
Mais on parlait de relève, c'est vachement exigeant. C'est très exigeant, je trouve, avec le ski alpin. Je trouve que depuis des années, il y a eu des
oui.
Dans la continuité, il y a toujours eu des champions et ça date depuis très longtemps. Donc je veux dire, on ne peut pas avoir chaque année un Pinturo qui arrive ou un Clément Noël, mais on a déjà des grands champions. C'est pour ça que moi je trouve que
on a déjà la chance de les avoir.
Non, mais d'avoir un grand champion déjà dans une discipline sportive, c'est extrêmement rare. Nous, on a la chance d'en avoir 2. Donc je vois pas pourquoi on dit qu'on est en crise. Pour moi, on n'est pas du tout en crise. Et puis évidemment, ils vont passer le relais. Mais après, t'as les jeunes qui vont arriver. T'as le fils de Bastoun qui est là. T'as des jeunes qu'il faut qu'ils s'affirment, qu'ils gagnent et qu'ils vont. Mais après, se faire un nom. Mais tu peux pas te faire un nom comme ça, Marie. Tu peux pas te faire un nom comme ça. Je crois que c'est le temps qui fait qu'à un moment donné, t'arrives à te faire parler de toi.
Alors c'est vrai qu'on peut tirer un bilan critique au 15 janvier. On n'est que le 15 janvier. Hein. On n'est qu'à la moitié de la saison. Sur les skieurs français, on sait qu'il y a le Suisse Odermatt qui a quand même pris 50% des podiums. Il y a Kildeuil qui en prend 30%. Et il reste 20% pour les autres. Donc c'est compliqué hein, quand vous avez aussi des monuments comme eux qui gagnent beaucoup de courses. C'est vrai que ça laisse des miettes, deuxième, troisième place et des places accessibles. Donc aujourd'hui, on a forcément des attentes sur Alexis Pinturault parce qu'il a été le leader de cette équipe depuis 11 ans. Il gagne depuis 11 ans et ça, on l'oublie tous les jours. Mais grâce à lui, pendant 11 ans, la France a vraiment vibré avec un leader dans cette équipe, avec des médailles aux Jeux Olympiques, avec des médailles aux Championnats du Monde, un titre de champion du monde, le gros club. Clément qui est arrivé là sur très jeune sur le circuit, qui a gagné, qui a empilé 9 victoires en Coupe du Monde, qui malheureusement fait 2 saisons avec beaucoup de déchets dans son ski, mais c'est aussi cette discipline qui est ingrate, le slalom.
Oui, mais est-ce que c'est pas des arbres qui cachent un peu la forêt
non,
quand même?
Non, alors je suis un peu d'accord avec toi, on a un peu un décalage de génération. Oui. On a pris un peu de retard avec ces jeunes, dont mon fils, dont c'est génération 98, puisqu'on voit les jeunes norvégiens qui sont de 2000 et qui gagnent des courses. Peut-être qu'ils arriveront à maturité dans un an.
Il y a aussi
ce décalage qui était un petit peu important avec Grange, avec Lizroux. Voilà, ces vieux qui avaient la place, qui avaient leur place, mais on n'a peut-être pas su anticiper si rapidement la montée des jeunes, en tout cas pour essayer de leur faire apprendre l'expérience en Coupe du Monde. Et aujourd'hui, quand tu vois après pour la progression, parce que nous, on a aussi un facteur qui est dur, c'est que pour arriver dans la hiérarchie mondiale, il faut passer des étapes et des étapes pour marquer des points Coupe du Monde. Et on les marque pas comme ça en claquant des doigts. Moi, mon gamin, par exemple, Steven, qui est 45e mondial, aujourd'hui, pour progresser, pour se rapprocher des 30, il faut absolument qu'il l'aille en deuxième manche
et
qu'il prenne le moins de secondes possible pour pouvoir baisser ses points FIS. Sinon, il va toujours partir 45e mondial. Donc, tu as deux courses comme la Garmisch, Adelboden, où c'est un skiable.
Oui, mais c'est le même système pour
tout le monde.
Et on rappelle
mais
que
tout le monde, là, tous les noms, c'est les mêmes qui sont devant. Ouais, tu regardes des jeunes, il y en a quelques-uns, mais ils sont déjà là depuis 3-4 ans.
Alors, on va sortir.
Précision juste pour les auditeurs qui nous écoutent, il faut savoir que, en slalom, en plus, quand tu es moins bien classé, tu pars derrière donc la piste est plus difficile à pratiquer, donc il y a plus de chances que tu fasses un moins bon résultat.
En descente en géant, surtout avec les conditions particulières cette année, on le voit encore ce matin, on a vu les images peu avant le départ, là, ils essayent de durcir la neige avec des produits pour justement que la piste soit équitable pour tout le monde. Mais c'est vrai que ce paramètre en ski est très compliqué. Et mettre la barrière haute, c'est pas simple.
Juste un point sur le live et on poursuit le débat avec Arnaud Souk, car le slalom a débuté la première manche de Wengen. Arnaud Souk.
C'est actuellement le Suisse Daniel Jule qui est sur cette piste de Wengen, mais c'est un autre Suisse qui pour l'instant domine les débats. C'est l'un des hommes en grande forme du moment, Loïc Meillard, qui a réalisé pour l'instant le temps scratch 48 centièmes devant le Norvégien Lucas Braten, 68 centièmes devant Linus Strasser, et à l'instant Daniel Jule qui en termine. Et pour vous dire déjà à quel point la piste est dégradée, même s'il a fait quelques petites fautes, il est pointe quasiment à 2 secondes Daniel Jule pour aller dans le sens de ce que vous disiez, le problème des classements en ski alpin et notamment en slalom. Eh bien, Clément Noël est en plein dedans parce qu'il était depuis plusieurs années désormais dans le top 7 mondial du slalom, et il en est sorti de ce top 7, ce qui fait qu'aujourd'hui il bénéficie du dossard numéro 12. Donc il va s'élancer sur une piste qui sera beaucoup plus dégradée que celle qu'il a l'habitude d'arpenter d'habitude en première manche, Clément Noël. Donc ça va être un vrai test. Il sera dossard numéro 12, et juste derrière lui, dans 10 petites minutes, ça sera également au tour d'Alexis Pinturault qui est dossard numéro 13. Voilà pour nos deux Français classés dans les 30, Stéphane Amier, dossard 46, Paco Rassa, dossard 52, et Léo Anguenot, pardon, dossard 67.
Et nous allons suivre ces courses et la course de nos Français sur RMC dans les grandes gueules du sport en direct de l'Alpe d'Huez. Le ski alpin français est-il en crise? C'est notre question.
Non, moi, j'ai une question à Bastoun, parce que j'ai l'impression naïvement que ce sport-là, aujourd'hui, pour arriver au plus haut niveau, c'est de plus en plus dur.
Oui,
c'est pour ça que ma question à Bastoun qui a été. Qui a concouru avec des grands champions. Aujourd'hui, j'ai l'impression que pour arriver au sommet, c'est encore plus dur.
Ouais, alors ce que je disais juste avant, hein, tu vois, tu peux progresser par la Coupe d'Europe. Donc, t'as beau gagner en Coupe d'Europe aujourd'hui, bon, tu arrives 50e mondial. Hein, quand t'es le leader de la Coupe d'Europe, t'es entre 45 et 5e mondial. Pour passer le cut au-dessus, c'est absolument passer par les qualifications en Coupe du Monde, donc faire des deuxièmes manches. Et tous les 45 premiers, ils ont le même niveau que toi, hein, mais à part les cadors sur du lisse. Moi, je vois Steven sur les temps avec Clément Noël ou quoi quand ils sont à l'entraînement. Il y a pas beaucoup de différence, hein, où des manches il est devant, des manches il est derrière, mais il est capable de skier aussi vite. Sauf que quand tu mets le dossard à la course, c'est plus compliqué. T'as, on le voit encore aujourd'hui sur les images, des pistes qui bougent, des pistes qui bougent, qui se dégradent. Tu fais pas ton ski, tu recules. T'as un peu un manque de confiance parce que tu et ça dans tous les sports, hein, c'est aussi un peu compliqué. Hein, on excelle de plus en plus dans la préparation physique. On a encore aussi, nous, un paramètre qui est le matériel. Aujourd'hui, tous les skis ne fonctionnent pas de la même façon sur les neiges. Donc ça, c'est un choix que tu prends au départ et que tu as des contrats de 2 ans, donc tu es obligé de faire avec. Mais on voit des grandes marques de différence de ski. Hein. On voit Christophersen avec des skis neufs qui arrivent cette année, il a trouvé un truc, ça a l'air de marcher, ça lui convient bien. Ça le favorise aussi. Alors lui, peut-être qu'il a toutes les marques de ski au pied, puisque c'est qu'une marque. C'est nouveau, il a peut-être un Rossignol, un Vandir, comme il l'appelle, un Dynastar, et il est capable d'avoir tous ces skis-là.
Non, mais là, t'es tout en haut de la pyramide. Mais avant d'y arriver, quand Donny dit que c'est difficile d'y arriver, si on part de tout en bas, si on part des clubs, des sports, déjà, rien que là, il y a quand même des... Quand je dis que c'est la crise, aujourd'hui, ce qu'il faut sortir, comme Fafio, comme Euro, pour mettre tes gamins dans un club des sports, malgré que les clubs s'arrachent pour essayer de trouver des ronds à droite, à gauche, ça coûte hyper cher, c'est vachement élitiste. Alors que c'est censé être la grosse base qui permet d'avoir des gamins qui arrivent jusqu'en haut, donc comme ton fils. Enfin, je veux dire, tu t'es ruiné pour que ton fils il en arrive jusque là. Ouais, on est d'accord avec ça.
C'est un projet personnel.
Il y a la naissance de teams parallèles. T'as des équipes qui se montent à côté de la Fédé, à côté du circuit classique, que ce soit en ski alpin ou dans le ski freestyle, c'est pareil. Hein. Pourquoi on en arrive là? Est-ce que c'est normal? Enfin, il y a quand même pas mal de questions qu'il faut se poser.
Nous, effectivement, comme tu le dis, Marie, à 15 ans, quand on a des athlètes qui sont en milieu de tableau, on leur dit allez, va ailleurs parce que t'es plus fait pour faire du ski de haut niveau et on arrive.
C'était pas le cas à l'époque où toi.
Non, on nous laissait un peu plus le temps. Ouais. On avait un réservoir un peu plus gros, que ça soit chez les garçons, chez les filles. On le voit bien chez les filles. On est dans le dur depuis de nombreuses années parce qu'on a délaissé ça aussi pendant un moment au niveau des sélections. On a réduit le réservoir et forcément le réservoir quand il se réduit, ben si t'as un leader qui est moins bon, si t'en as une qui se blesse, on arrive qu'avec 3-4 gars au départ. Là, nous, en slalom, on a 5 places.
Rappelez-vous l'équipe de slalom géant française. Il y a moins de 10 ans, il y en avait 5 ou 6 qui étaient dans les 15 premiers. Il y avait une densité incroyable. Aujourd'hui, si t'en as
que 5 au départ.
Là, nous, on a 5 places en slalom aujourd'hui. Pour avoir des places, il faut encore progresser dans cette hiérarchie que j'ai expliquée. Après, on a tous nos blessés, mais à qui on salue tous les blessés français parce qu'on a payé lourd là, sur le mois de décembre et début janvier avec Victor Mufajandé qui revenait bien. Alors, c'est vrai, quand on enlève un mec qui est dans les 15 premiers et qu'il n'est plus là, il n'en reste plus que 2. S'il y en a un des deux qui sort, il n'en reste plus qu'un. Deuxième manche. Et là, on remet encore la pression sur le leader. Et le leader, c'est pas toujours facile, quoi.
En fait, on n'aurait peut-être pas fait ce débat si effectivement, s'il y avait eu des podiums, des podiums et des victoires sur la première partie de saison.
Parce que des podiums, il y en avait quelques-uns.
Oui, des victoires. Dire qu'on n'aurait pas parlé de ce sujet-là. Et en fait, comme il manque une victoire, on commence à se poser la question. Mais en fait, le problème existe. C'est-à-dire qu'il manque un réservoir.
Oui, mais c'est pas nouveau.
Mais c'est pas nouveau.
Souviens-toi, on en a déjà parlé longuement. On sait qu'en équipe de France, aujourd'hui garçon-fille, il nous manque du monde. On a besoin de réserves d'athlètes pour aller vers le haut niveau, se faire cette compétition sur les courses inférieures.
Il faut en mettre beaucoup dans l'entonnoir.
Dans l'entonnoir pour avoir malheureusement de la perte d'athlètes de haut niveau. Parce que c'est aussi ça le sport de haut niveau. Tout le monde ne peut pas être champion du monde.
Et pour savoir si le ski alpin français est vraiment en crise, on va peut-être aussi attendre les mondiaux qui vont se dérouler en France, Courchevel, Méribel, dans 3 semaines. Et on espère que nos Français vont réussir à accrocher des podiums, de belles médailles et pourquoi pas un titre mondial. 10h26, on revient dans quelques instants avec un homme heureux autour des cyclistes français, de nos leaders qui affichent leurs ambitions pour le Tour de France. Pierre Amiche sera là avec nous. Et puis sachez que nous suivons et nous allons suivre Clément Noël, Alexis Pinturo pour la première manche du slalom de Wengen, toujours avec Sébastien Amier. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Si vous étiez au bout du rouleau, on pourrait envisager de conclure.
Oui, vraiment, s'il n'y a plus espoir, oui.
Jean-Christophe Drouet.
10h31, on est de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Denis Charvet, Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Marie Martineau et Sébastien Amier. Dans quelques instants, un homme heureux, Pierre Amiche va nous parler du Tour de France et des leaders français qui visent le général. Mais nous allons reprendre la direction de Wengen avec le slalom, la première manche. Dans quelques instants, Clément Noël, Alexis Pinturo, nos deux Français. On y va tout de suite. Et Bastoun également au commentaire. Clément Noël va s'élancer. Arnaud Souk.
C'est parti, Jean-Christophe, pour Clément Noël sur cette piste du Lobarum. Borne, pardon, à Wengen, une station dans laquelle il a eu l'habitude de briller par le passé. Première victoire en Coupe du Monde, il en a même eu une deuxième ici à Wengen. Et la première, il s'était lancé avec un dossard numéro 10 à l'époque. Donc voilà, le dossard 12, ça devrait pas forcément lui poser problème. Pour l'instant, c'est très bien ce que réalise Clément Noël sur cette piste du Loberhorn. Je veux dire, au niveau de son dossard, il a 67 centièmes de retard. Il y a vraiment beaucoup de skieurs qui ont pris une seconde et demie, voire deux en bas. Il faut absolument aller en bas pour Clément Noël pour gagner de la confiance. C'est vraiment compliqué. Il se bat contre la piste. Une seconde 29 désormais au troisième intermédiaire pour Clément Noël qui va en terminer dans quelques instants. Une seconde 29, ça le placerait tout de même dans le top 5 pour l'instant. Clément Noël, on sent que vraiment il skie quand même un petit peu avec le frein à main, le skieur de Val d'Isère qui va en terminer dans quelques instants. Oh là 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 là, il a failli enfourcher sur la double du bas, mais finalement il en termine avec 1,86 de retard. Ce sera le septième temps pour Clément Noël qui est forcément pas satisfait de sa manche. Il s'est battu très très fort, il en rigole Clément Noël, mais vraiment il s'est battu, il est allé en bas, j'ai envie de vous dire c'est quand même déjà très très bien, et il sera pas si loin que ça de se battre aujourd'hui pour le top 5. On est en reconstruction là, clairement, pour Clément Noël.
Bastoun, avant le passage d'Alexis Venturo, ton avis.
Il est bien parti, hein. Il a vraiment joué avec le terrain en haut, hein. On voit que 56 centièmes sur les 67 au sommet du mur, c'était dans le coup. Il fait cette faute en bas, mais en tout cas voilà, il est en phase de reconstruction un petit peu. Il est en délicatesse avec son ski, mais en plus sur une piste difficile aujourd'hui, on voit, hein, tous les coureurs ont du mal, beaucoup de gouttelettes sur les lunettes aussi, puisque la neige chalée vient de le piquer taper, on en prend plein la tête et c'est pas facile à skier.
Alexis Venturo, Arnaud Souk.
Allez, Alexis Venturo qui s'élance à son tour sur cette piste du Baron, cinquième à Val d'Isère. Il a signé l'une de ses manches référence la semaine dernière à Adelboden. Deuxième manche qui a vraiment été excellente pour Alexis Venturo. Il a forcément gagné en confiance. Alexis Venturo qui au deuxième intermédiaire pointe pourtant déjà à une seconde et demie. On sent que c'est un gros combat aussi pour Alexis Venturo sur cette piste qui vraiment se dégrade. Je ne sais pas comment on va aller jusqu'au tout dernier dossard. Ça va vraiment être une horreur à skier d'ici une heure, d'ici les tout derniers coureurs à s'élancer. Troisième intermédiaire dans un instant pour Alexis Venturo qui pointe déjà à 2 secondes et demie, c'est énorme, 2 secondes et demie. Il y en a qui ont fait moins bien que ce temps, mais ça risque vraiment de chiffrer tout en bas pour Alexis Venturo qui n'est pas dans un bon jour. Il va falloir regarder même la qualification pour la deuxième manche, parce qu'elle sera pas du tout certaine pour Alexis Venturo si jamais il venait à prendre plus de 3 secondes, ce qui va être le cas. 3 secondes 18 de retard pour Alexis Venturo qui prend pour l'instant le 10e et dernier temps des 13 skieurs engagés. Il y a 3 coureurs qui n'ont pas fini, Manuel Feller l'Autrichien, Timon Hogan et Sébastien Fosselvag, les Norvégiens. Mais vraiment, c'est très très dur ce qui se passe ce matin sur la piste du Loberhorn. Loïc Meyer, le Suisse, en tête devant Henrik Kristoffersen, le Norvégien, et Lucas Braten, un autre Norvégien. Et puis donc nos Français, Clément Noël 7e et Alexis Venturo 10e. Ça va le faire pour la deuxième manche pour Clément Noël. Reste à voir la position, certainement dans le top 10. Ça sera, j'ai envie de dire, voilà, il va falloir attendre pour voir si Alexis Venturo se qualifie bien pour cette deuxième manche.
Ouais, Bastoun, c'est la douche froide pour Alexis Venturo. Hein.
Des fois, on est bien sur notre canapé. Hein. Je peux vous le dire. Quand on connaît la piste comme elle est, déjà elle est très difficile en plus avec ses conditions de neige, et c'est vrai que pour Alexis c'est dur. On le voit, ce qui est très bas depuis l'eau, hein, tout très long sur ses appuis, il n'y a rien qui dégage, il n'y a pas de vitesse qui ressort après le piqué. Et c'est vrai que quand tu skis comme ça, ben, c'est cher, mais ça va être limite qualif, hein, ça va être limite à la 30e place. Donc il a de grandes chances d'être à la deuxième manche, parce que contre l'évolution de la piste et du revêtement de neige, ça peut le faire.
On rappelle que ton fils va passer Dossard 46 et forcément on suivra ça avec toi. Et tu seras même avec nous là dans les parages pour suivre la descente de ton fils, même si je sais que ce n'est pas un exercice très, très facile. Marie, une petite observation là sur les premières manches de Clément Noël et Alexis Venturo.
Bah, c'est la bagarre. Tu sens que ça manque de fluidité, qu'ils sont dans le dur, quoi. Ça se voit, je trouve. Juste à regarder comme ça. Et
on souffre pour eux-mêmes.
Ah ouais, vraiment, vraiment. T'as envie que la ligne d'arrivée arrive le plus vite possible, quand même.
Exactement. On reparlera du slalom, évidemment, de Wengen. Mais tout de suite, on reprend le cours normal de notre programme. On fait entrer Pierre Amiche.
RMC. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content.
Un homme heureux.
Je suis tellement content, content, content.
Pierre Amiche.
Pierre Amiche, bonjour.
Bonjour à tous.
Coucou.
Alors pourquoi heureux aujourd'hui ?
Eh bien cette semaine, je suis un homme heureux. Comme il aura été facile de rallumer la mèche, aisé de renouer avec un rêve impossible nommé Tour de France. 3 bonhommes, autant de petites phrases et me voilà de nouveau sur la piste du... Et pourquoi pas ? Cette pente redoutable, savonneuse que j'arpente tous les ans, les beaux jours revenant. Le mécanisme, moi je le connais par cœur. Hein. C'est le même que les accros où je rêve, je vibre, je perds, je chiale, je regrette. Hein. Trahi 1000 fois, convaincu 1001 fois. Mais cette fois, cette fois je vais me refaire. Cette fois, il est pour moi le grand frisson. Vient d'abord l'espoir avec Guillaume Martin qui va réduire la voilure, concentrer toutes ses forces sur le Tour de France. Il l'assume, il l'affirme. Il le revendique même. Je ne peux pas ne pas viser le classement général du Tour de France, c'est dans mon ADN. Premier frisson. Un leader français qui ne se cache plus. L'espoir qui grandit avec David Gaudu. Lui aussi sort du bois. Quand j'ai vu le parcours, j'étais très content. C'est peut-être la chance de ma carrière. Il faut croire en sa bonne étoile. Vous vous rendez compte, la chance de ma carrière. Si cette phrase, elle vous colle pas, deux, trois petits frissons. Enfin, même son de cloche chez Romain Bardet. Le tour passe chez lui, dans ses montagnes. Et puis l'occasion est trop belle. Il dit, ça serait bien de revenir sur le Tour de France pour jouer le général. Nous voulons nous concentrer uniquement sur la préparation du tour. Les meilleurs Français seront sur la grande boucle pour la gagner. Et ils le disent. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Vient ensuite la déraison. Et s'il le faisait? Et si c'était possible? Et si les petits gars de chez nous luttaient les yeux dans les yeux avec Pogacar, Vingegaard, Thomas, Bernal, toute la clique des prodiges magnifiques? Pourquoi Bardet devrait baisser les yeux? Je me mens, je le sais, mais ça me fait du bien. Je me suis répété ça avec Virenque, avec Jalabert, avec Moreau, avec Moncoutier, Vauclair, Roland, Perrault, Coppel, Lemével, Simon, Dessel. Quand je vous dis que c'est une maladie, je suis complètement cinglé. Mais les drames se jouent souvent en trois actes. Après la déraison, la détresse. Il y a des passions inexplicables dans la vie. Il y a des gens qui aiment la peinture, les grands vins, le cinéma. Moi, j'aime Thibaut Pinot. Je l'aime grand comme ça. Je l'aime grand comme une montée pour Antruy. Je l'aime grand comme le Tourmalet, grand comme le vélo. Il m'a à chaque fois trompé et à chaque fois je l'ai pardonné. Parce que la passion, c'est beaucoup de souffrance, mais c'est aussi la chair de poule quand il lève les bras. Perdant magnifique, loser glorieux, vainqueur mérité, battu méritant. Thibaut, le roi sans couronne, qu'aura fait chialer la France et rêver les gosses. Pinot, cinq lettres, couleur panache et un destin brisé. Mon cœur en morceaux, au 92e kilomètre de la 19e étape du Tour de France 2019. J'étais amoureux, bordel. T'étais l'élu. T'allais balayer 34 ans de rien. Alors Romain, David, Guillaume, comme dans toutes les romances après une histoire compliquée, eh bien faites-moi l'oublier. Faites-moi oublier que j'ai jamais autant vibré qu'avec lui. Balayez mes espoirs immatures. Montrez-moi ce que c'est l'ivresse de la victoire. Portez-moi dans un univers irrationnel où, triomphant de la pente et des ennemis, vous rejoignez Robic et Bobet, Thévenet et Hinault, Valkoviak et Pinjon. La place dans mon cœur, elle est toute petite, mais Juillet est encore loin. Comme le chantait Piaf en duo avec celui qui sera le 12e homme de sa vie. À chaque fois, j'y crois et j'y croirai toujours. Ça sert à ça l'amour. Je rajouterai, sans beaucoup de génie, ça sert à ça le tour.
Merci beaucoup Pierre Amiche, le passionné. Hein. Le passionné du Tour de France, j'ai l'impression qu'il a pris un petit coup après cette retraite donc annoncée de Thibaut Pinot.
On peut pas avoir un bête là. J'y crois.
Non.
Que...
Non, ça va. Coupez le micro, s'il vous plaît.
Arrêtez là, s'il vous plaît.
En plus, j'étais en train de faire du teasing. Arrête, Marie. Thibaut Pinot qui sera ce soir dans Bartoli Time à partir de 19h pour nous raconter sa décision. Donc, lui qui a décidé d'arrêter sa carrière à l'issue de la saison. Est-ce que vous aussi, maintenant c'est à vous de trancher les GG, vous êtes heureux de voir nos Français afficher les couleurs sur ce Tour de France? Heureux ou pas, Christophe Cessieux?
Moi, je suis heureux d'avoir entendu la chronique de Pierre. Il m'a filé le frisson après de se rendre compte de la réalité des choses. Et c'est pas tout à fait pareil.
Denis Charvet.
Bon, heureux, oui, mais on espère toujours.
Ok, on est dans la croyance.
Voilà, okay. L'espérance, on va dire.
Sarah Pitkowski.
Heureuse parce qu'effectivement, quand j'écoute Pierre, là, j'ai envie de suivre, quoi. J'ai envie d'y croire.
Ouais, on a envie de partir à la guerre.
Ouais, mais non, je vous le dirai après.
Oui, parce que là, c'est pas le principe. Tu connais le principe de heureux,
ouais,
pas heureux.
Des fois, j'aime bien me rebeller.
Très bien. Marie Martineau.
J'étais pendue à ses lèvres. Heureuse.
Heureuse, parfait. Bah, tu commences, Sarah.
Oui, alors pourquoi Pierre nous dit que ces coureurs français affichent leurs ambitions? J'ai été regarder le classement de 2022, rassurez-moi, on était tout proche du podium pourtant. Qu'est-ce que ça changerait? David Gaudu, il était quatrième, Bardet, il était sixième. En fait, ce qu'ils nous annoncent là, c'est qu'ils veulent refaire ce qu'ils ont fait l'année dernière. Donc pourquoi nous serions plus heureux et pourquoi nous aurions des ambitions qui sont plus hautes que celles? Quand t'es quatrième... Ok, devant, t'as les meilleurs du monde. Mais c'était déjà extraordinaire.
C'est la normalité.
Mais oui, mais tu peux espérer
c'était
mieux.
Déjà extraordinaire. Donc...
Bah, tu peux espérer
non, c'était
mieux,
pas
toujours.
Extraordinaire. C'était à leur niveau. Ils étaient bah, là oui, où ils auraient dû être.
Très bien, mais alors pourquoi on en fait tout un pataquès 6 mois avant
mais
le Tour de France?
C'est pas un pataquès, c'est qu'on y recroit. Comme à chaque fois que tu retombes amoureux, tu dis on y retourne. Moi, ça vous fait pas le truc à la fin du tour, le lundi matin où ça y est, c'est fini, t'es dégoûté, il y a un manque et tout. Moi, ça me le fait. C'est alors que je suis pas le tour depuis 30 ans comme Pierre. Et donc là, j'ai attendu depuis le mois d'août et donc on y est enfin en début de saison et là ils te disent ouais mais on part à l'assaut de ce truc
donc c'est pas du rêve qu'on nous vend, on nous vend le fait d'essayer de
enfin y arriver.
Oui, mais pendant quelques années, le lundi au lendemain du tour, on se disait ouais l'année prochaine, je suis sûr qu'il va pouvoir y arriver, ouais. Parce que tu sentais qu'il y avait une progression, tu sentais que ces gars-là étaient là, en mesure de rivaliser. Là, je pense qu'ils sont taqués.
Ils sont au taquet du taquet.
David Gaudu, peut-être qu'il peut gagner une place, peut-être qu'il peut monter sur le podium du Tour de France, mais les autres, Guillaume Martin, j'y crois pas une seconde. Romain Bardet, peut-être sur le Giro, mais podium du Tour de France à son âge, ça va être compliqué. Thibaut, il fera certainement pas le Tour de France.
Bardet, attention, hein, Bardet.
Et Christophe, s'il y avait un Hino,
il faut parler. Quand on parle des Français, c'est très bien, mais regardez ceux qui sont devant.
Mais non, mais
ceux qui sont devant, ce sont des génies. Ils sont tous plus jeunes que nos Français et ils ont gagné à partir de 20 ans. Et Pogacar, Vingegaard, Bernal et tous les autres. Et notre champion du monde, Evenepoel, quand il va y arriver sur le Tour, vous pensez qu'il va pas être devant les Français?
Pourtant,
c'est ça, il faut se rendre compte de la réalité, malheureusement.
Le scénario de l'année dernière, jamais on aurait imaginé que ça se passe comme ça. C'est vrai, quand Vingegaard renverse le Tour et prend la place et que les gens se mettent à bosser pour lui.
Il était deuxième derrière Pogacar l'année d'avant, donc tu vois, c'était quand même déjà un duel entre les deux.
C'est marrant, hein, vous parlez pas d'Alaphilippe. C'est incroyable.
Parce qu'il a rien dit pour l'instant, Alaph.
Parce qu'il sort d'une saison cauchemardesque.
Oui, et on ne sait pas. Tu me dis qu'il gagnera jamais le Tour.
Non, mais attends, mais puis Alaph, on n'est même pas sûr qu'il soit aligné sur le Tour pour l'instant. Le feu vert, pas l'air d'être.
On va voir son début de saison, mais de toute façon, oui, comme Thibaut Pinot, il a laissé sans doute échapper sa plus grande chance de remporter le Tour en 2019, lorsqu'il a été meilleur jeune.
Toi qui suis bien le Tour de France, il y a quand même quelque chose, et c'est pour ça qu'aussi Pierre a décidé de faire sa chronique là-dessus. C'est qu'avant, on se disait, bon, les Français, vous vous manifestez, vous allez jouer le général et tout ça. Là, 6 mois avant, ils le disent. Alors oui, je rejoins ce que tu disais, Sarah. C'est vrai que on est souvent pas très loin du podium, et ce depuis plusieurs années, voire parfois sur le podium. On se souvient de Pinot, de Bardet.
Oui, mais ça représente quoi le podium?
Non, mais en tout cas, si t'es dans le podium, c'est que t'es dans le coup. Non, mais si tu es sur le podium, c'est que tu joues la gagne. Et c'est que tu
Pas forcément. T'es très loin souvent du podium de la gagne.
Non, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une bascule quand même? Est-ce que tu sens quelque chose de la part de nos coureurs français?
Non, moi je pense que la bascule, elle est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire pendant des années, on a cru qu'ils allaient y arriver. En 2019,
on a trop espéré en fait.
Mais là, on est passé de l'autre côté, malheureusement. Moi je crois pas qu'il y a un Français de cette génération qui gagnera le Tour. Et je sais pas si je verrai un Français remporter le Tour de France de mon vivant.
Ils disent pas juste je veux gagner le Tour de France. Ils expliquent pourquoi éventuellement c'est possible. C'est-à-dire que
Pourquoi ils vont jouer le général Godu, parce qu'ils ne savent pas faire autrement que de jouer le général.
Godu dit que le parcours lui permettrait éventuellement d'y arriver. Tu vois, non, mais ça s'ancre sur un fait très concret. Et Bardet dit qu'il prépare uniquement le Tour de France et pas les autres. C'est aussi un fait très concret.
Mais parce que il y a pas de chrono, ou alors il y a un chrono en montée. Voilà pourquoi ils envisagent ça. Parce qu'ils savent très bien que sur un chrono, sur un 40 km tout plat, ils prennent 2 ou 3 minutes minimum dans les
20 minutes. Tant mieux.
Donc là, il y a pas de
chrono.
Mais c'est pour ça qu'ils espèrent.
Moi, j'ai plus d'arguments. J'y crois encore aussi.
Non, mais il y a beaucoup de com aussi. Ceux qui disent les Français sont obligés de vendre quelque chose.
Donc c'est le style, mais
il a raison, Christophe. Un Godou, il gagnera jamais le Tour de France.
Non, mais il y avait des conférences de presse de présentation d'équipe où on affichait peut-être le fait de dire on veut gagner une ou deux étapes sur le Tour ou d'aller chercher le maillot du meilleur grimpeur. On affichait des ambitions qui pouvaient être différentes aussi, hein. On n'était pas juste
sur le podium.
Bien sûr,
on a eu une très belle génération.
Disait je cherche le maillot du meilleur jeune, du meilleur grimpeur, et de décrocher quelques étapes du Tour. Mais pas aussi clairement le fait de jouer la gagne ou en tout cas le podium.
Ok, les copains, je reprends la main. Je vous annonce, évidemment, je vous réannonce que Thibaut Pinot sera dans Bartoli Time ce soir à partir de 19h. Lui qui a annoncé la fin de sa carrière à l'issue de la saison. 10h45, le ski, on va prendre la température, savoir comment ça se passe pour nos Français avec Arnaud Souk, premièrement juste à l'homme de Wengen.
Ça n'a quasiment pas bougé, hein. Clément Noël toujours 7e temps, c'est Loïc Meillard le Suisse qui domine pour l'instant cette manche et qui ne sera très certainement pas battu. Henrik Kristoffersen le talonne, le Norvégien à 45 centièmes, un autre Norvégien sur le podium provisoire de cette première manche, Lucas Braten à 48 centièmes, et puis donc je vous le disais, Clément Noël 7e à 1,86 pour Alexis Pinturo. Bon, on a peut-être été un petit peu pessimiste avec Bastoun de dire qu'il ne serait pas qualifié ou tout juste qualifiable pour la deuxième manche. Il pointe à 3 secondes 18. Il est 12e actuellement, mais c'est vrai que tous les skieurs, il y en a très très peu qui lui passent devant. Il y en a que deux qui lui sont passés devant. C'est Marco Schwartz et Ramon Zenhausen qui sont deux pointures de cette discipline du slalom. Il y a beaucoup de skieurs qui finissent mal, qui ne finissent pas. Vraiment, c'est très très compliqué. Et puis alors, le traceur de la manche nous a mis cette double en bas de la piste juste avant l'arrivée qui cause du tort à tout le monde. Il y en a un qui va se faire mal. Je le souhaite pas, mais il y en a, j'ai bien peur qu'il y en ait un qui à un moment se fasse très très mal. En tout cas, voilà, Meillard devant Kristoffersen et Braten, et ce que je peux vous dire, c'est Clément Noël, s'il va en bas en deuxième manche, sera pas très très loin du top 5.
Merci beaucoup Arnaud Souk. 10h46, on se retrouve dans quelques instants pour le zapping des GG. À partir de 11h, on parlera de Novak Djokovic qui effectue son retour en grâce à l'Open d'Australie qui débute cette nuit. On va vous parler de Noël Le Graët, de nouvelles informations à vous donner, c'est le zapping des GG et d'autres évidemment. On s'en fout pas, à tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Bernard, il ronfle maintenant.
Toi, mais c'est pas possible, il peut rien faire en séance, il m'a interdit.
Jean-Christophe Drouet.
Les grandes gueules du sport, toujours en direct de l'Alpe d'Huez pour les RMC Sport Games. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec Denis Charvet, Marie Martineau, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux. À 11h, on parle de Novak Djokovic qui va tenter de remporter évidemment l'Open d'Australie. Un retour en grâce. Peut-il enfin être aimé? Ce sera notre question reportage à suivre en direct d'Australie avec Eric Salio. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC,
le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première, justement, information à vous donner. L'affaire Noël Le Graët, qui pourrait aller devant la justice. On s'en fout, on s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je m'en fous.
Marie Martineau.
Non, je m'en fous pas.
Moi non plus, je m'en fous pas.
Ok, Denis Charvet.
Je m'en fous.
L'affaire Le Graët pourrait donc bien prendre une autre tournure. D'après Le Monde, hier, les inspecteurs en charge de l'audit concernant la gouvernance de la 3F auraient informé Noël Le Graët qu'ils allaient transmettre au procureur des faits pouvant être pénalement répréhensibles. Le président de la 3F, vous le savez, qui a annoncé sa mise en retrait de la présidence mercredi devant le comité exécutif, aurait été informé ce vendredi. C'est l'audition lundi par les enquêteurs de l'agence Sonia Swede qui semble avoir fait basculer l'affaire, car son témoignage pousse les inspecteurs a dénoncé des faits relevant d'outrage sexiste. Noël Le Graët qui a réagi dans une déclaration transmise à l'AFP. Je viens prendre conscience avec étonnement d'un article du Monde faisant état de fuite sur le rapport provisoire en cours de préparation. À ce stade, je ne connais ni les faits qui me sont reprochés, ni les personnes qui en sont à l'origine. Marie Martineau.
Bah moi, ça m'aurait embêté que ce qui s'est passé sur Bartoli Time dimanche vienne éclipser le vrai problème de départ en fait avec ce personnage-là, et donc je suis très contente que ça revienne quand même sur le devant de la scène et qu'on reparle de ce problème.
D'affaires plus graves que de propos sur Zinedine Zidane.
Me semble-t-il.
Ça rapide comme...
Alors moi, je m'en fous pas parce que là, je pense qu'on est en train de dépasser les bornes. Ce sont des fuites. Il y a une enquête qui est en cours. Il y a un audit qui est en cours. Pourquoi on est obligé là tous les jours, toutes les semaines, de rajouter quelque chose à cette affaire? Elle va de toute manière à un moment être dévoilée. De toute manière aujourd'hui.
Parce que ça fait vendre, Sarah.
Oui, mais là on est sur une enquête. Moi là ça m'énerve. Ça c'est trop. Il y a pas à avoir des fuites. On parle. Même si ce sont des actes graves, on est en train de monter en épingle.
Ouais.
Quelque chose qui est de l'outrage sexiste. Il y en a tous les jours d'outrage sexiste. Et pourtant, ton nom n'est pas balancé tous les jours dans la presse. Et d'ailleurs, les conséquences d'un outrage sexiste, pardon, mais ils sont totalement ridicules puisqu'ils sont répréhensibles de 750 euros d'amende. Donc laissons les affaires se juger, l'audit se rendre, et puis après, on fera un bilan de tout ça. Mais là, de dévoiler des miettes de choses, là, c'est trop. Pour moi, c'est trop.
C'est une enquête politique, hein.
Oui, bien sûr.
C'est ce que laisse entendre dans sa déclaration Noël Le Graët, qui fait part de son étonnement.
Bien sûr.
Ouais. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est la crise à Lyon après la défaite à domicile face à Strasbourg. On s'en fout, on s'en fout pas. Christophe Cessieux. La crise à Lyon.
Je m'en fous pas.
Ok, Denis Charvet. Ok, Sarah.
Je m'en fous pas, mais j'ai pas vu le match, donc je vais écouter ces messieurs.
Ok.
T'as pas besoin de voir le match.
Marie Martineau.
Personne l'a vu.
Trois matchs sans victoire en Ligue 1, une deuxième défaite de suite. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Une deuxième défaite de suite à domicile en championnat, une huitième place qui fait tache. C'est bel et bien la crise à l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas s'est invité en conférence de presse pour tenter d'éteindre l'incendie après cette défaite hier soir, donc face à Strasbourg. Ça a été très chaud après la rencontre. D'ailleurs, la conférence de presse a dû être organisée sur la pelouse à cause des lacrymogènes. Le président lyonnais en veut à ses supporters qu'il accuse de débordement et il défend sa direction. La nouvelle direction Jean-Michel Aulas.
Maintenant, quand ils attaquent des dirigeants qui sont exemplaires, c'est moi qu'ils attaquent. Donc il faut qu'ils arrêtent. Je ne peux pas accepter ce style d'expression qui est sans aucune réalité avec ce qui s'est passé et avec le travail qui est réalisé. On a, c'est vrai, un club qui souffre en ce moment, mais avec des infrastructures incroyables, avec un coach de grande qualité. Mais il ne faut pas que, à chaque fois qu'on essaye de prendre un certain nombre d'initiatives, on se retrouve face à des supporters qui sont quand même très méchants par rapport à un certain nombre de gens qui, je l'ai dit tout à l'heure, sont irréprochables.
Non, mais... Les supporters qui ont tenté d'envahir le terrain et qui n'y sont pas parvenus à la fin de la rencontre.
Oui, non, mais je suis d'accord avec lui, mais en même temps, je trouve naïf parce qu'il dit... Les supporters, ils sont exigeants, tout simplement, ils ne sont pas méchants.
Il n'y a pas qu'à Lyon.
Ça se passe. Non, mais je veux dire par là, il est en train de découvrir un monde qui, dans lequel il est depuis 40 ans.
Mais il ne le découvre pas.
Non, mais ils sont dans le dur, tout simplement. Mais je trouve que c'est exagéré, effectivement, de la part des supporters. Et en même temps, ils n'y arrivent pas. Donc, il va falloir quand même trouver des solutions. Je ne sais pas lesquelles, mais c'est quand même catastrophique pour un club comme Lyon, avec l'effectif qu'ils ont. Ils sont presque, ils touchent le fond là.
Il y a quand même, à mon avis, eu une erreur de recrutement au départ. Là,
aussi, oui, bien sûr.
À tout prix, ces anciens joueurs de l'Olympique Lyonnais, on se rend compte que finalement, c'était pas la bonne solution.
Le départ de Lucas Paqueta aussi.
Aulas vient de vendre son club quand même à l'Américain. Et là, c'est la première fois qu'il assistait, je crois, à un match depuis qu'il est propriétaire. Effectivement, de voir ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait comme erreur?
Il y avait 7 jours de rétractation ou pas dans ces cas-là?
Oui, après, ce qui m'énerve un peu, c'est l'attitude des joueurs. Voilà. Moi, je trouve que les joueurs, il y a un manque d'engagement professionnel chez eux qui me surprend.
Ok, bon, voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'Olympique Lyonnais. Juste cette information à vous donner, on va pas avoir le temps de la développer, mais c'est une énorme surprise. On est très heureux pour lui. C'est Cyril Gane en MMA qui affrontera John Jones le 4 mars prochain pour une nouvelle ceinture mondiale. C'est sa deuxième chance. Ça va être extrêmement compliqué, mais il a une chance absolument magnifique pour cette ceinture mondiale des lourds. Ce sera donc le 4 mars prochain pour Cyril Gane. Il est 10h56. Restez bien avec nous. La suite des grandes gueules du sport. On va parler de Novak Djokovic. Peut-il enfin être aimé? Oui, non, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.